Bonjour, soyez les bienvenus dans la bande originale. En cette semaine de vacances scolaires, une sélection de nos émissions littéraires en compagnie de la bande au grand complet ce matin. Direction le Japon avec Thierry Marx pour un polar gourmand et sanglant. Bonjour Thierry, merci de venir malgré les frimas, malgré la pluie, malgré...
Les frimas ?
Oui, frimas.
C'est élégant.
Quoi Frima, c'est quand il fait froid, le premier froid.
Ah, très bien, j'en apprends tous les jours.
C'est vrai. Mais Frima n'est pas le mot le plus difficile que nous ayons aujourd'hui. Hein. Tu vas voir, il va y en avoir plein.
Je prends un petit Doliprane.
Non.
Mais on part de tellement loin, on part de tellement loin.
Et surtout, à moto sous la pluie. On avait cette discussion avec Thierry Marx des dangers de la moto sur les feuilles mortes. Bah oui, c'est vrai,
super dangereux.
Vous allez bien Thierry en tout cas ?
Je vais bien.
C'est ça la première question, parce que quand on lit votre livre, on se demande...
Comment ça va ?
Si tout va bien, c'est carrément, même les éditions, édition 109. Comme ouais. Ça, au moins on se pose pas la question de savoir si ça va avoir de
l'hémoglobine ou pas. Est-ce qu'il en reste aussi du sang à la fin ?
Ceci dit, il y a quelques scènes sanglantes, mais sinon les morts sont plus, on va dire, délicates et malicieuses. Comment parler de ce roman ? Sans déflorer quelques surprises qui nous attendent au tournant de certaines pages. Je sais pas, t'as une idée, Laetitia ? Parce que moi, je suis très.
Leïla, ouais.
Leïla, bah, j'étais avec.
Je vais faire les infos et je t'envoie Laetitia dans deux secondes. C'est compliqué de pas dévoiler. Bon, je pense qu'on peut quand même parler des premiers meurtres sans. Parce que c'est quand même le sel de l'histoire.
Alors, attends, si, pardon. On peut dire qu'il y a la mafia japonaise, la mafia corse, la police française.
Ouais.
Qu'il y a beaucoup de meurtres. On sent quand même qu'il y a un côté serial killer, qu'ils ont tous un point commun, et ce sont des pseudo-morts naturels,
ouais.
Et l'inspecteur français, qui est une sorte d'anagramme de Simenon et du commissaire Maigret, ou commissaire Maigret, je sais pas, parce que la cuisine est très présente aussi.
Ce mélange. D'Hercule Poirot,
Poirot et Maigret.
Arrêtez!
Yepa! La folie! Voilà, on peut dire ça déjà, hein.
C'est vrai, non, c'était une... D'abord, on m'a tellement cassé les pieds avec cette cuisine moléculaire, cette gastronomie moléculaire.
Vous vengez, là.
Comment ça, casser les pieds?
Oui, casser les pieds, parce que on a eu l'impression, il y a 15 ans, quand on a parlé de gastronomie moléculaire, que je cherchais à inventer une tendance de cuisine.
Mmh.
C'est pas du tout, c'est un outil de compréhension. Mais avec cet outil de compréhension, vous pouvez en faire une arme par destination, sans être un empoisonneur. Parce que l'idée, c'était pas d'être un empoisonneur. L'idée, c'était de faire mourir les gens et de faire mourir les gens autrement.
Mm-hmm.
Donc, en connaissant quelque chose.
Tu te dis ça tellement quel moment que ça fait encore plus flipper.
C'est ça l'idée. C'est de dire, bah oui, les ingrédients vous veulent du bien. 95% ou 98% d'une tomate vous veut du bien. Mais la tige verte, c'est de la scopolamine, elle peut vous vouloir du mal.
Et comme le fugu, le fameux poisson japonais qui porte un poison.
Effectivement, il y a un neurotoxique dans le fugu, mais il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles. Vous prenez de la noix de muscade, par exemple, à haute dose, si vous savez retirer le goût de la noix de muscade, ça devient un poison violent.
Comme disait Ambroise Paré, tout dépend de la dose.
Exactement.
Même les pépins de pomme.
Les pépins de pomme.
Bah, un bol entier, hop, arsenic.
C'est de l'arsenic.
C'est pas vrai.
Exactement.
Si.
Oui, c'est de l'arsenic.
Bon, après, il faut avoir envie de manger.
On veut du bien.
Heureusement, je ne mange pas de produits frais.
Mais certains mangent la pomme, y compris l'autre oignon. C'est-à-dire,
y a une petite dose, ça va.
Il y a des personnes qui mangent tout dans la pomme.
Il y a quelqu'un qui bouffait un pommier une fois. Je veux dire qu'il était mal.
En parlant d'arbres, il y a l'if aussi. Je ne savais pas que la sève de l'if était un poison au point qu'on racontait que, je crois, les Romains, c'est ça, ne voulaient pas faire la sieste sous cet arbre.
Et puis, la nature, oui, nous veut du bien, mais par moments.
Mais c'est cette idée que le remède et le poison, le pharmacopée,
exactement,
le pharmacone, c'est à la fois le remède
exactement
et le poison, ça dépend de la dose.
Ouais. Et après, on peut jouer avec ça, et puis où ça devient un ingrédient, où ça devient un ingrédient toxique, et là, toute la subtilité de ce roman est là.
Moi, j'ai fait des cauchemars, mais c'est bon signe, parce que c'est vrai que le début du roman, je me suis dit, mais c'est pas possible, il est en train d'exterminer la population de l'Ardèche, il y en a un qui meurt à chaque page.
tu vas recevoir une dette de l'Ardèche.
Bonjour les Ardéchois. J'ai fait un petit cauchemar, je rêvais que vous étiez en train de m'attaquer avec un couteau à beurre. Vous étiez en train de
couteau
à beurre, non, c'est raciste plutôt.
Non, ça prenait beaucoup de temps.
Pour
beurre, mais ça prenait beaucoup de temps surtout. C'était très très lent.
T'as
le couteau à beurre, si tu veux.
T'as la peau dure.
C'est d'autant plus surprenant qu'il y a, oui, il y a quelques sabres, il y a quelques yakuzi au pluriel. Non,
yakuza.
On dit.
Non, c'est pas de l'italien, rien.
Je cherchais à faire un truc bien.
Yakuzi.
Donc des yakuza.
Des jacuzzi.
Qui se... Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Viens dans mon, viens dans mon jacuzzi. Sors dans mon yakuza. Donc, avec le, qui se coupe le doigt à chaque erreur commise. Ouais. Donc, il y a des scènes qui sont fortes parce qu'on sait que vous êtes, imprégné de la culture japonaise depuis plus de 20 ans ou vous partez
là-bas. J'ai 23 ans de Japon maintenant.
J'ai 23 ans de Japon, j'aime bien.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le cursus. J'ai 23 ans que je travaille avec le Japon. J'y suis resté 5 ans. Et j'ai toujours une entreprise au Japon.
Oui, mais vous en donnez pas une image très touristique. On n'a pas spécialement envie d'y aller après avoir lu votre roman.
Non, mais c'est... Bah, quoi que les univers un peu fantasmés du monde des yakuza
se retrouvent... Il y a une certaine poésie dans la violence.
Oui, et puis il y a tous ces codes du Bushido qui sont encore tenus un peu par les codes du yakuza.
Oui, par les arts martiaux notamment. Ouais. Oui.
Et il y a le, je sais plus, césium 137 qui revient beaucoup dans le dans votre roman.
Substance nucléaire radioactive.
Exactement, et qui déclenche des cancers, des morts, des infarctus, des attaques, des AVC et autres. Et parce que c'est vrai que retrouver des grands mafieux chaque fois morts de mort naturelle, on sent que à la fois le policier qui fait son enquête, à la fois le chef de la mafia se dit non mais c'est quand même pas
normal.
C'est quand même pas normal. On ne peut pas tout dévoiler de ce qui s'y passe, ni à l'ambassade de France, ni les tunnels.
L'ambassadeur
secrets.
Il prend pour son grade. Hein.
Mais
Diplomatie, ouais.
C'est dense, c'est extrêmement dense. On parlera tout à l'heure de la structure avec Odile Bouillet parce que vous co-signez ce roman. On n'a pas encore donné le titre. On ne meurt pas la bouche pleine. On ne comprend le titre d'ailleurs. J'ai envie de dire que dans les 10 dernières lignes de ce roman, on comprend.
Heureusement que Nagui commence par la fin, comme ça il a tout de suite
été éliminé.
On comprend. Si tu vas encore plus loin, il y a l'annexe aussi qui vient.
Il y a une recette aussi.
Qui est la recette du commissaire Maigret. Qui vient aussi révéler pas mal de choses. On va essayer de vous garder l'envie de lire.
Il faut le lire.
Il faut le lire. Ça vous a pris comment? C'est-à-dire comment Thierry Marx, qui a quand même, je sais pas combien de restaurants étoilés, je sais pas combien de restaurants dans le monde, je sais pas combien d'émissions de radio, je sais pas combien d'émissions de télé, je sais pas combien de boulangeries à ouvrir. Enfin bref, vous avez autre chose à faire que d'écrire un roman?
Non, c'est à un moment donné, quand j'avais arrêté Top Chef, je travaillais pour l'agence Kappa. Et je suis allé, dans le cadre de Passeport pour le crime, visiter, faire un peu, jouer un petit peu
au
reporter pour 13e rue. Et la dernière visite que j'ai eu à faire, c'était Tijuana. Et je suis tombé à Tijuana en pleine guerre des cartels. On s'y attendait pas du tout.
Sympa.
Et oui, ça décanillait beaucoup. Ils vidaient le quartier assez vite. Et je suis, c'est horrible. On voyait en moyenne 8 ou 10 morts par jour. Et avec la médecine légale locale. Et on se disait, mais c'est quand même horrible de faire mourir les gens d'une telle façon. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à écrire des feuillets. Mais ça pouvait pas faire un roman. Et il fallait toute la subtilité d'Odile Bouillet pour rassembler la structure.
On en parlera
pour
avec elle.
Canaliser le psychopathe qui sommeille en vous.
C'est un peu ma psychanalyse perso.
C'est ça.
On en parlera tout à l'heure avec elle. Ça vous a pris du temps? C'est un effort? C'est un autre métier que vous avez découvert? Ou la passion pour les San Antonio que vous aviez via votre papa, que l'on retrouve d'ailleurs un tout petit peu dans le mélange suspense police et un peu sexe.
Oui, un peu.
Voilà, un peu.
C'était l'envie d'écrire d'abord, et puis moi, je fais partie de ces gamins qui, à 13 ans, étaient en échec scolaire, où la grammaire, le français, c'était très compliqué pour moi. Et quand, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à m'initier et à acquérir.
Pardon, parce que vous n'aimiez pas lire? Parce que généralement,
je n'aimais pas lire parce que j'avais pas le...
L'orthographe et la grammaire, ça vient avec la lecture. C'est-à-dire le fait de lire, on comprend le sens des mots et comment les construire.
J'avais pas d'intérêt pour ça. En tout cas, chaque fois que je rendais une dictée, c'était pourri de faute. Donc je m'étais mis, pas fait pour moi. Et puis au fur et à mesure, j'ai des gens qui m'ont initié à la lecture, qui m'ont fait découvrir cette langue française. Et quand j'ai réussi à acquérir un petit peu de compétences là-dedans, je me suis trouvé une espèce de sensation de liberté. Et ce que j'essaie de... Là, aujourd'hui, c'est jubilatoire pour moi de co-écrire avec Odile, mais de dire, et le gamin dont on a à s'occuper des fois dans ces quartiers, je leur dire, non, attends, tu vas avoir la liberté d'expression, tu vas avoir la liberté de mouvement que tu vas avoir dès lors que tu vas maîtriser cette langue française avec les mots utilisés au bon moment et au bon instant. Tu vas voir comment tu es pertinent.
Et c'est peut-être comme la cuisine finalement. Une fois qu'on maîtrise les ingrédients, on peut maîtriser les structures.
C'est exactement
et les
pareil.
Recettes,
si je vous parle de cuisine, je veux dire la cuisine, c'est le geste, le feu, le temps. Le geste, c'est la coupe. Coupe juste, goût juste. Le feu, c'est la maîtrise de la cuisson, le bon timing pour faire les choses. Ça, c'est la grammaire. Et après, les recettes, c'est du bidon. Il faut jouer avec les ingrédients. Le français, c'est pareil. Vous apprenez la grammaire, j'avoue que c'est quand même pas très drôle.
C'est dur.
Et après, quand vous pouvez, vous avez cette grammaire, vous jouez avec les mots. Et là, quand vous commencez à jouer avec les mots, c'est...
Le plaisir est là.
Je mesurais mon propos, mais c'est presque orgasmique, quoi. C'est vous dites, oh, j'ai pu dire ça, j'ai pu faire comprendre ça, c'est magique.
Mais comment leur donner le goût de la lecture?
Il faut lire pour eux.
Faut
je vous
lire.
Assure, moi, il y a des gens qui m'ont lu des pièces de théâtre, qui m'ont lu Céline, et je me suis dit, mais il faut que je lise ça. Il faut absolument que je lise ça. Lucchini fait un travail, Fabrice Lucchini fait un travail merveilleux là-dessus. Il vous donne envie.
C'est vrai.
Si vous voulez initier quelqu'un à la lecture, il faut faire naître le désir.
Ouais, le désir de découvrir une histoire,
bien sûr,
le plaisir,
bien sûr.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et il faut lire pour quelqu'un. Vous lisez pour quelqu'un, et puis d'un coup, il dit, mais je vais aller au bout.
Mais là, par exemple, avec votre roman, c'est un très bon exemple. Il suffirait de lire les deux premiers chapitres à des élèves dans une classe. Et a commencé à
T'es
formuler.
T'es sûr que c'est pour enfants, toi?
Alors des grands, on va dire. Mais prenons un Agatha Christie, par exemple. Ouais. Lire le début d'un roman policier comme celui-ci, l'accompagner éventuellement de planches de BD parce que c'est souvent adapté en bande dessinée, et de dire alors faites des hypothèses parce que la lecture c'est une coopération active, c'est de lire et c'est de partager et d'être vraiment impliqué et de partager ça. Tout d'un coup, ça donne envie à plein de gamins de finir le bouquin tout seul. Et ça,
mais complètement. Une excellente
méthode.
Faire naître le désir. Pour moi, c'était l'essentiel. Et c'est vrai que du jour où j'ai commencé à maîtriser cette langue française, je me suis dit, je vais pouvoir l'utiliser. Et surtout, c'est Lacan qui dit, quand il n'y a plus de mots, il y a de la violence. Mm-hmm. Plus vous donnez une liberté de parole à quelqu'un, plus il comprend les mots qu'il exploite, et bien moins il y aura de violence physique.
Le roman s'appelle « On ne meurt pas la bouche pleine » et c'est signé, co-signé Odile Bouillet, que nous recevons tout à l'heure, et Thierry Marx aux éditions 109. J'espère, Maréchal Ganache, que vous avez compris pourquoi Thierry Marx était notre invité.
Ah, mon cher Nagui, même si sur une radio, cosmopolito, bobo, humanisto, progresso, gaucho, bolcho, crypto, coco, comme France Inter, Marx est un nom qui ne choque personne. Moi, je peux vous dire que Marx, c'est pas un blase qui m'inspire confiance. D'autant plus que vous-même, Nagui, hier, en brandissant « On ne meurt pas la bouche pleine », vous avez dit à GNB, notre rédac chef, tout en le frappant avec le bouquin. Un polar écrit par un cuistot, mais qu'est-ce qui te prend de programmer une dope pareille? C'est le genre tambouille que je digère très mal. Refile plutôt à Ganache. Il y a du sang, du crime, de la torture, des empoisonnements et de la barbaque, ça devrait lui plaire. De toute façon, je ne peux pas compter sur la bande d'analphabètes qui m'entoure. Donc, mon cher Nagui, hier soir, au Vieux Gland, mon hospice, tout en prenant mon bain dans ma baignoire à porte, comme vous allez voir, c'est important la porte, comme je tiens à honorer mon contrat en CDI, je me suis mis à lire « On ne meurt pas la bouche pleine ». Et c'est là que je vous en veux à mort, monsieur Marx. À mort ! Dès les premières lignes, je cite, son visage lacéré par les ronces lui faisait mal, elle avait la bouche pleine de sang, me voilà captivé, accroché, prisonnier du suspense haletant. Plus moyen de lâcher votre bouquin. Plongé dans ma lecture et dans ma baignoire, dont l'eau refroidissait, je suis resté là, tenu en haleine. Quand on a affronté les Viettes comme moi... Le combat fait signe, soldats de France, soldats de tout pays, nous remontons vers les lignes, oh légionnaire. Mais bon, donc, quand on a affronté les Viettes comme moi et Monsieur Marx, il n'y a pas grand monde capable de mettre le trouillomètre à zéro. Même des yakuza coupeurs de doigts. Mais là, je l'avoue, même si j'en ai dans le froc, comme Monsieur Marx, je claquais des dents autant de froid que de peur. J'ai failli en crever. Oui, je suis furieux.
Des glands, surtout.
Oui, je... Très froid.
Un par personne.
Violacé. Oui, je suis furieux contre vous, Monsieur Marx. Car toujours absorbé par ma lecture, le nez dans votre bouquin, je suis sorti du bain en ouvrant la porte latérale de la baignoire, oubliant que celle-ci était remplie d'eau à ras-bord. Non seulement j'ai inondé les vieux glands, mais j'ai glissé et me suis ouvert le fondement sur un éclat de mon verre à dentier qui avait explosé au sol, ce qui a ravivé cette infirmité intime suite à une blessure de combat. C'était en 54... Qui m'empêche de rester en position assise plus de 3 minutes. Je vais donc vous laisser sans rancune, Monsieur Marx, et bonne émission.
Merci.
Merci. Galache, merci à
vous. Lundi, sur France Inter.
Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous a dit que Thierry Marx était notre invité pour présenter ce roman « Ne meurt pas la bouche pleine ».
Oui, après l'histoire du couteau à beurre, donc mon cauchemar de la nuit, j'ai pensé à vous, et quand je pense à vous Thierry Marx, je pense au grand chef, à votre dimension sociale, citoyenne, au créateur d'école et à l'ardent défenseur de l'apprentissage. Et je voulais donc, à cette occasion, vous soumettre ce son d'Antoine Frérot, président de Veolia. C'était au micro de Léa Salamé sur cette antenne France Inter.
Vous êtes un ardent défenseur de l'apprentissage. Vous dites qu'il faut promouvoir l'apprentissage, il faut qu'on ait plus d'apprentis en France et que leur image soit plus belle en France. Moi, j'ai une seule question. Est-ce que vous avez poussé l'un de vos enfants à être apprenti ?
Antoine Frérot ?
Non, je ne l'ai pas fait parce que, étant brillant à l'école, l'un voulant être médecin, l'autre, peut-être ma dernière le sera, d'ailleurs, apprenti, mais en études supérieures. Le problème ne s'est pas posé.
Décryptage, donc brillant, inconciliable avec la notion d'apprentissage, et éventuellement la petite dernière, je dis pas ça parce que c'est une fille, mais bon, elle fera peut-être de l'apprentissage, mais
au niveau.
Attention, études supérieures. Pourquoi ce préjugé reste-t-il aussi vivace, Thierry
Marx ? On n'est pas loin du mépris, même.
Ça s'appelle comme ça.
Ça correspondait à une image du mauvais élève qu'on plaçait d'une extraction sociale difficile, qu'on plaçait plus facilement en apprentissage, et ça nous permettait de faire une main-d'œuvre corvéable à merci, sans rien dire. Donc aujourd'hui, l'apprentissage est totalement autre chose. C'est à vie. On doit pouvoir se former à vie pour pouvoir s'épanouir socialement. Et c'est vrai que je pense que c'est une... j'aime bien quand je suis sur les plateaux comme ça, des éléments de langage.
Ouais,
je pense qu'il a manqué d'éléments de langage, ce monsieur.
Ou alors il a dit le fond de sa pensée, ce qui serait d'autant plus dommageable. Plus juste, oui, je pense aussi. Vous avez créé l'atelier de cuisine nomade, notamment.
Mais là, pardon, dans l'extrait, le PDG de Veolia qui vient défendre l'apprentissage dit le problème ne se pose pas pour mes enfants.
Mais voilà,
le problème ne se pose pas.
C'est résumé.
Et vous avez fait une tête de vous étiez dépité.
Ben oui, parce que c'est.
Vous faisiez de la tête.
Il faudrait... faut pas confondre, l'apprentissage n'est pas réservé aux mauvais élèves, aux extractions sociales qui sont...
Non, c'est l'expérience de la vie.
C'est l'expérience de la vie qui
apprend
vous
sur
permet...
Le terrain, bien sûr.
Et pour ce monsieur, c'est considéré comme une voie de garage. Quoi. En gros, vous ne pouvez pas accéder au supérieur, vous irez donc par défaut en apprentissage, ce qui est un peu le...
Ce qui est complètement fou à entendre encore aujourd'hui.
Ouais.
Or que l'apprentissage, et pour faire deux mots là-dessus, permet à des jeunes gens de faire pour apprendre.
Ouais.
Or qu'à l'école, on essaye d'apprendre pour faire. Et ça marche pas pour tout le monde. Il faut le reconnaître.
Ouais.
Eh bien, l'apprentissage vous permet de faire pour apprendre et après de conduire aussi des études supérieures. Pourquoi pas ?
C'est vrai. Et je trouve vraiment fantastique toutes les initiatives que vous menez, que ce soit l'atelier de cuisine nomade, le centre que vous avez ouvert avec la mairie du 20e arrondissement à Paris, où vous proposez de l'immersion professionnelle pendant 12 semaines à des personnes qui ont besoin, soit qui sont en difficulté sociale, qui ont besoin de se réinsérer, qui ne trouvent pas leur voie. Et je me dis que finalement, le succès de ces initiatives, c'est aussi de voir des gens qui ont fait des études supérieures poussées, qui à un moment décident d'arrêter et qui reprennent des études et qui vont en apprentissage.
C'est très juste dans votre propos. Il y a effectivement nos centres, il y en a 8 en France maintenant, nos centres acceptent tout le monde. D'abord, le principe de ces centres, c'est personne n'est fait pour l'échec et aucun quartier n'est fait pour l'échec. Donc nous avons des personnes en reconversion, des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, et pour certains avec des erreurs de parcours qui ont été des fois assez lourdes.
Donc quel que soit l'âge, quel que soit le parcours,
et on a passeport pour l'emploi pour des gens plus jeunes. Passeport pour l'emploi permet à des jeunes gens qui s'intéressent au métier du sport, qui n'ont pas le baccalauréat, on les accompagne avec des athlètes de haut niveau à passer le CQP d'éducateur sportif.
C'est une deuxième chance.
Et c'est une deuxième chance. J'étais avec l'équipe de la mairie de Saint-Denis hier et on voit que ces projets fonctionnent très très bien.
Et c'est une très belle histoire que vous racontez. C'est important d'entendre ce message, je crois.
Oui, et surtout d'entendre qu'il n'y a pas de quartier ni de personne faite pour l'échec.
D'ailleurs, le 20e arrondissement, c'est aussi lié un peu à votre histoire, le 20e.
Oui, bien sûr.
Forcément.
Le 20e, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, je pourrais vous citer les quartiers merveilleux où on a dégagé des quartiers du 20e pour nous mettre en Seine-Saint-Denis et ensuite nous mettre dans le Val-de-Marne, au plateau de Queuilly, la cité des Bois-l'Abbé, où il n'y avait rien. Il y avait 3000 logements, mais il n'y avait rien autour. On s'attendait que ça produise quelque chose de merveilleux 30 ans après.
Et c'est quoi ? C'est une promesse que vous vous êtes faite ? Cette idée-là de donner cette chance, d'ouvrir un peu les bras en disant non, tout n'est pas perdu pour vous.
De rendre à la vie ce qu'elle lui a apporté.
Ouais, c'est vrai qu'en 2004, j'ai bénéficié d'un envoyé spécial qui m'a bousculé, parce qu'on parlait de moi, et je me suis dit, pour un type qui s'en sort de la cage d'escalier, il y en a 1000 autres qui vont rester dans la cage d'escalier. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire? J'ai bossé avec les Restos du Cœur, c'est genre merveilleux. On a fait un bouquin, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la formation professionnelle était l'essentiel. Et un jour, un monsieur important qui nous a aidé financièrement à monter ces écoles à une époque, m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'aides dans ce... Il m'a dit, c'est environnemental, Thierry, sinon on va s'entretuer.
Oui,
et pourquoi vous ne citez pas ce monsieur?
C'était Pablo Escobar.
C'était Christophe de Margerie, qui est décédé, hélas. Oui. Mais quelques mois avant sa mort, je parlais avec lui. Je lui ai dit, pourquoi vous avez donné un coup de main? Pourquoi vous m'avez présenté tous ces gens pour nous aider pour Cuisine Mode d'Emploi? Il m'a dit, parce que c'est environnemental. On va s'entretuer.
C'est ce que vous expliquez avec le plaisir de l'apprentissage de la langue ou de la lecture. C'est que plus on a de mots à son service, à sa disposition, et plus on est en mesure d'exprimer les nuances de ce qu'on ressent et non pas d'exprimer sous forme de violence.
Si je peux me permettre, pardon, le patron que vous venez de citer, était l'ancien président de Total, qui est mort dans des circonstances extrêmement étranges, en Russie, avec un jet privé qui a été heurté.
Une machine qui faisait marche arrière.
C'est un ami, mais on rentre là aussi. Et je peux pas faire autrement que d'y penser. Entre votre livre, l'amitié que vous aviez pour lui et les circonstances de sa mort, et les suspicions d'assassinat par la mafia et russe.
Alors là, je n'irai pas jusque là parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants.
Mais moi non plus, je les connais pas. Tout le monde a trouvé très bizarre.
Il y avait un envoyé spécial d'ailleurs.
Ouais. Ce propos-là, je ne le connaissais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit. Je connaissais le.
Vous savez bien que l'accident est super bizarre et qu'on. On ne sait pas pourquoi.
Vous êtes proche de toutes les mafias, enfin.
Entièrement. Mais là, je ne veux pas débattre de quelque chose que j'ai pas.
Je ne parle pas de débattre. Je dis que ça doit résonner bizarrement dans votre cœur et dans votre tête.
Mais vous savez, quand vous perdez quelqu'un qui vous a entendu, moi, la première fois. Vous savez, ma rencontre avec lui, ça a été simple. C'est quelqu'un qui nous a présenté et je le reçois, il me reçoit. Je lui montre cinq papiers où j'avais écrit quelque chose sur cuisine mode d'emploi. Il me dit, vous allez me demander de l'argent. J'étais tellement vexé. Je dis non, je voudrais un réseau. Il me dit, ça, je peux vous aider. Et trois jours après, il me présentait un certain nombre de personnes qui étaient capables de dire, bah oui, on va vous aider. 15 jours après, on avait une aide sérieuse.
Et quel est le pourcentage de réussite ou de placement dans la vie professionnelle de...
Je vais vous donner ces chiffres. Je vais vous donner ces chiffres parce que il honore les équipes de cuisine mode d'emploi et de boulangerie mode d'emploi. C'est 95% de retour à l'emploi et sur 1000 personnes formées, ça a été 11 créations d'entreprises pour des gens qui étaient en situation difficile.
Ouais, tout est là.
Donc aujourd'hui, c'est un modèle qu'on essaime. On est Marseille quartier Nord, on est Besançon dans un symbole fort, parce qu'on est aussi dans l'ancienne entreprise LIP. Vous savez, ils ont été les précurseurs de la formation professionnelle, de se dire, eh bien, on va reprendre notre destin en main. Moi, la volonté de tout ça, c'est de dire, je ne vais pas me venger de quoi que ce soit, mais de me dire, il faut instruire pour faire des hommes libres. Et pas faire une main d'œuvre corvéable à merci. Et je crois, et j'étais surpris d'ailleurs qu'un député l'autre jour dise, la formation professionnelle n'est pas l'alpha et l'oméga de cette société, mais si, c'est l'alpha et l'oméga de cette société pour que les gens ne soient pas corvéables à merci.
Thierry Marc, c'est notre invité. On ne meurt pas la bouche pleine. C'est le titre de ce nouveau roman co-signé avec Odile Bouillet que nous allons recevoir dans quelques minutes. Mais d'abord, voici l'humeur de Frédéric Seigneur.
Allez, alléluia. Vous savez, Nagui, des fois, je regarde dans mon assiette et dans celle des autres.
C'est bien.
Et souvent dans celle des autres aussi. Et des fois, j'ai l'impression de manger des fruits et des légumes qui voyagent plus que moi. Non mais c'est vrai, des monts qui viennent du Cameroun, des melons qui viennent de Floride. Alors à une époque, à une époque, on est tous en train de se demander si on aura assez d'argent ou de pétrole pour pouvoir prendre l'avion. Les légumes, eux, ils ont jamais autant voyagé. Hein. La mondialisation, c'est un tracas pour l'homme, un grand pas pour les crudités. Et pourtant, ces aliments qui font du tourisme planétaire, c'est une catastrophe. Prenez la banane de Guadeloupe et de Martinique. Ah, parce que la banane, c'est ce que les Antilles exportent le plus, juste après les chanteurs de zouk et les grossesses non légitimes. Eh ben, la banane. Non, mais c'est vrai quand même. La banane, ce fruit délicieux qu'on n'ose jamais vraiment manger en public, hein, a de peur d'une réflexion de mauvais goût, surtout si ton collègue de bureau a un prénom qui commence par Na et se termine par Guy. Un fruit qui est quand même cité 6712 fois dans l'œuvre de Francky Vincent.
Ah ouais.
J'ai compté 6712 bananes dans l'œuvre de Francky Vincent. Faut croire que ça m'intéresse. Un des desserts préférés des enfants, mais qui aujourd'hui aux Antilles fait plus de victimes que Daesh, le tabac et les accidents d'avion réunis.
Carrément.
Alors pas directement, parce que tu peux pas tuer quelqu'un avec une banane à moins. Enfin bref, ça c'est autre chose.
Non.
Mais la banane tue à cause du chlordécone, un pesticide. Et tout est vrai. Hein, un pesticide utilisé aux Antilles entre 72 et 93. Un pesticide qui a contaminé les Antilles pour plus de 700 ans. Soit une demi-carrière de Gérard Collomb. C'est un truc qui est vrai. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Antillais sont contaminés par le chlordécone. C'est-à-dire, les terres sont contaminées, les rivières, le bétail, tout. Alors évidemment,
un pesticide pour entretenir les bananes.
Le but de ce pesticide, c'était juste d'éliminer le charançon. C'est un insecte qui devait être sacrément armé pour qu'on utilise un truc de genre. Parce que je sais pas, le charançon antillais dans les années 70, il devait faire 1m90, 200 kilos, porter une barbe et crier « Barman Wagbar !» Parce que quand même, le chlordécone comme effet secondaire, entre autres, ça provoque des troubles neurologiques et testiculaires, des troubles de la motricité, de l'humeur, de l'élocution, de la mémoire immédiate, des cancers de la prostate, enfin bref, les mêmes symptômes que le rhum finalement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais contrairement au rhum où contrairement au rhum, c'est un... Moi j'en ai bu un petit peu avant la
virgule.
Il est interdit aux États-Unis depuis 1979 parce qu'ils se sont très vite rendus compte que les gens faisaient pipi fluo et tout ça, ils se sont dit faut qu'on arrête. Mais en France, on l'a interdit en 90. Et qu'en métropole, parce qu'aux Antilles, on l'a interdit en 93, 3 ans plus tard. C'est-à-dire qu'en 90, en métropole, on s'est dit « Oh la vache, c'est dangereux cette merde !» Et il y aura fallu 3 ans pour qu'on l'interdise aux Antilles. Et après, on dit que ce sont les Antillais qui sont lents. Alors, je sais que certains vont dire « Oui, mais c'est encore une chronique victimaire, gna gna gna, le racisme, gna gna gna, les pauvres noirs. » Mais je tiens quand même juste à dire aux auditeurs que les Antilles, finalement, pour la France, c'est pas qu'un lieu de vacances, c'est un département avec des gens qui y vivent, et c'est un peu le laboratoire de ce qu'un État peut faire de pire. À l'heure où on se pose des questions ici sur le glyphosate, je vous le dis, si ça arrivait là-bas, ça peut très bien arriver ici. Parce que des fois, on subit le décalage horaire, mais des fois aussi, on subit le décalage horreur.
Oh, joli. Wow. Bravo. France Inter, midi, la bande originale. Voici Junior.
Magnifique.
Ouais, c'est le titre. Et Thierry Marx, c'est aujourd'hui dans la bande originale.
Magnifique.
Mais ouais, parce qu'on vous le dit, jusqu'à midi et demi.
Magnifique.
Junior donc avec Magnifique dans la bande originale sur Inter, la bande originale qui continue jusqu'à 12h30 avec Thierry Marx. On va recevoir dans quelques instants Odile Bouillet qui a co-signé avec Thierry Marx On ne meurt pas la bouche pleine, le roman sanglant qui est publié chez 109. Vous avez compté le nombre de personnes tuées dans votre roman ou pas ?
Non, j'ai plus en tête.
On est d'accord qu'on dépasse la dizaine. Hein.
Oui.
J'ai commencé le compte et puis j'ai arrêté en chemin.
On dépasse la dizaine.
Oui, mais c'est jalonné, c'est pas d'un seul coup.
Ah oui,
coup,
non.
C'est bien, mais
absolument.
absolument, sont absolument ménagées et sont ouais amenées et surprenantes.
Même quand le principal suspect est arrêté, ça continue.
Voilà.
Point de suspension. Dans cette bande originale, on va évoquer en musique. Non, la musique est présente, Leïla, dans le roman.
Oui, il y a quelques clins d'œil. Il y a Lost in Translation. Ouais.
Bon, là, c'était le premier gong.
Lost in Translation qui permet de... C'est la musique qu'il écoute en même temps qu'il s'imprègne un peu des éléments. Et puis, il y a un clin d'œil aussi, c'est page 76.
C'est un clin d'œil ou c'est une vanne d'ailleurs?
Ouais, vous faites référence quand vous parlez des Yakuza à leur commerce et à leur business. Et parmi ces business, il y a une maison de disques et il y a un manager qui est grassement payé pour trouver des tubes, les tubes de demain. Et là, il a obtenu une l'exclusivité d'un chanteur français en vogue. La jeune star blonde, je cite à la gueule d'ange, ne cachait pas sa passion pour le Japon dont il vantait la beauté et la nature. Il avait carrément enregistré une reprise en japonais d'un vieux titre français ouais qui avait dans les années 70 cartonné au pays du soleil levant.
Et là, vous pensez à qui?
Nous, on pense.
Je ne veux pas dire.
Non, mais vous voulez pas dire. Un indice?
Ah, il faut deviner.
Ah ben nous, ah, on sait déjà.
Toujours sympa d'écouter Vianney.
La javanaise par Julien Doré avec un clip bucolique puisque on a donc trouvé. On est content. Voilà, Leïla et moi, on n'est pas peu fiers.
Ouais.
Dans la bande originale de Thierry Marx en musique, vous écoutiez dans les années 80 Johnny Cash, Thierry. The drums slowly play, the fife lowly play the dead march as you carry me along. C'est déjà de bonne humeur à l'époque. Hein.
Ouais, c'est la voix de Johnny Cash qui
est bouleversante.
Et dans les années 80, vous avez votre CAP de pâtisserie et vous engagez dans l'armée comme parachutiste dans l'infanterie de marine, ce qui explique votre connaissance des chants du maréchal Ganache.
Ah, bah évidemment.
Ça, c'était la Légion étrangère.
La Légion.
Mais non, je me suis engagé effectivement juste à ce moment-là.
Oui, autant tu t'y connais en Julien Doré, mais pas
non,
en chant.
Mais je faisais le lien avec le militaire, c'est-à-dire qu'on ouais peut.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a un pas à faire.
C'est vrai. Le chant compte beaucoup dans l'harmonie des troupes.
et là, vous vous dites quoi? Vous êtes plusieurs copains, je crois, et vous avez votre CAP, mais vous n'avez pas de boulot.
Je peux vous raconter l'histoire en deux mots. C'est en fait, ma mère m'appelle à ce moment-là. Elle me dit, on a reçu un papier de la gendarmerie, il faut faire des 3 jours. Donc j'avais tout fait pour quitter ce quartier. Et finalement, je me retrouve à la Cité des Boulereaux et à la Cité des Bois-l'Abbé avec 4 copains qui avaient, comme moi, choisi l'apprentissage. Et on nous propose de faire notre service militaire. À l'époque, le service militaire, c'était 250 francs par mois. C'était rien. On ne voyait pas comment on allait faire notre service militaire. Et puis, comme dans les quartiers, tout se règle la nuit, on discute. Puis le lendemain matin, on se présente. On dit, on va s'engager. Au moins, l'armée, nous, ça correspondait à voyage et aventure. Donc, on est allé au CIRFA, ce qui est le centre d'instruction des armées, enfin, le centre d'information des armées. Et à la caserne de Reuilly, je suis tombé sur un jeune lieutenant, je crois, qui me dit, vous faites quoi? Je lui dis pâtisserie. Il me regarde d'un air dubitatif. Et puis, après, je lui dis, mais je fais du judo. Et je viens de faire les championnats de France de judo. Il me dit, ah, ça, c'est intéressant, vous devriez faire les troupes de marine. Et il sort une affiche, et j'arrêterai là-dessus. Il sort une magnifique affiche où il y avait un merveilleux hélicoptère. Il avait marqué, si tu es félin et manœuvrier, tu peux être aéroporté.
Ah,
j'ai trouvé que le mot était magique. Beau. Et dessous, il y avait le portrait du général Bijard. Ah. Et le général Bijard surlignait, disait, si tu es souple et résistant comme le cuir, tu seras parachutiste. Et j'ai trouvé que ça avait, c'était, et alors, deux semaines après,
Alors qu'Alison aurait dit, si tu es souple et, redites-moi la phrase.
Souple et résistant.
Tu es souple et résistant comme le cuir.
Et ce qui est drôle, c'était...
On a une pub pour du popper.
Bien joué. Oui. Ou pour et des soirées particulières. Parce
et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, deux semaines après, j'étais dans une PMP, une préparation militaire parachutiste. Et effectivement, j'ai été intégré ensuite au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine.
Et puis, vous avez été casque bleu pendant la guerre du Liban.
J'ai eu deux missions pour la guerre du Liban. Ouais. C'était effectivement, casque bleu, c'était la première des missions. On avait 19 ans, ouais. Rien du tout. Et puis après, c'était force française qui était représentée au Liban.
Et vous êtes devenu mercenaire avec les phalanges chrétiennes
Non, pas mercenaire, parce que mercenaire, ça veut dire qu'on était payé.
Vous étiez payé pour, aux côtés.
J'ai soutenu les phalanges chrétiennes du général.
Casque bleu, c'était des troupes de Michou, précisons pour ceux qui
et vous avez
qui pas bien l'armée.
Ce qui est intéressant, pourquoi j'évoque ce passage en tant que mercenaire, c'est que vous avez un souvenir de cuisine qui est important. Qu'il y avait des combats, mais qu'il y avait quand même un moment de trêve et que
la nourriture
rassemble.
Il y avait toujours un moment donné, je me souviens, moi j'étais dans le quartier d'Achrafieh, quartier chrétien,
ouais.
Et il y avait un type qui faisait des falafels sur une espèce de container à essence, là, et ça sentait les falafels partout et tout le monde se méfiait de tout le monde, alors personne n'osait aller jusqu'au truc. Alors on envoyait toujours un type chercher des falafels avec un... Puis un jour, je tombe sur un Américain qui me dit « Mais tu manges ça ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Tu vas survivre ici, toi. » Ça m'avait fait rire.
Thierry Marx, est-ce que vous avez, en situation de conflit au milieu de ces zones plutôt dangereuses, vous avez été déjà amené à tuer quelqu'un ?
C'est pas des questions...
C'est pas des questions qu'on pose.
On remplit des missions, c'est tout, il n'y a pas...
Non mais votre rapport à la mort avec ce avec
ouais,
ce
il a massacré des falafels, je peux te le dire.
Votre rapport à la mort avec ce roman, avec la manière dont
le rapport à la mort, il est pas dans ces situations-là d'abord. Et puis il y aurait pas d'héroïsme à raconter quoi que ce soit. Et il y en a surtout pas. Mais le rapport à la mort, il est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que ce que j'aimais bien dans les codes du Bushido, si on voulait revenir à ce livre, c'est de dire le code du samouraï, c'était de dire indifférent à la vie, associé à la mort. Et voilà, c'est que la mort fait partie. Une fois que vous avez réglé votre problème avec la mort, vous êtes tranquille. Vous ne craignez plus rien.
Mais ça relève de la mort de soi.
Enfin, oui, parce que c'est pas de la mort des autres.
Exactement. C'est-à-dire que dès lors que vous prenez conscience que vous êtes quelqu'un de mortel, et le samouraï disait toujours, écrivait comme ça, c'est Miyamoto Musashi qui l'écrit, disait la seule volonté du samouraï, c'est d'avoir une mort glorieuse.
Mais c'est vrai ce que vous dites, parce que moi qui imagine souvent la mort de Nagui, je me sens très bien. C'est vrai, c'est une espèce de sérénité qui m'envahit.
Arrête.
En 1985, Thierry Marx, vous écoutiez. Toi, mon toit, Eddy Medeiros, vous entendez cette musique, vous vous revoyez dans quelle... circonstances, dans quelle situation ?
C'était compliqué parce que j'étais en...
En 85-86, avec des cheveux déjà ?
J'avais des cheveux, j'avais un état de santé qui n'était pas au top. Je récupérais un petit peu de pas mal de choses. Et j'ai vu une fois à la télévision, à l'époque, cette jeune femme. Et elle chantait, cette voix était... je me disais, mais elle est magnifique, quoi, c'était... C'est superbe.
Et petit bustier en paillettes, petite mini-jupe en paillettes, ouais, très sexy. Ouais. Ouais.
C'était très très beau. Et
souvenir de Légion, ouais. Petit bustier
et
en paillettes.
Et vous n'êtes peut-être pas souvenir de ça, parce que vous êtes trop jeune, mais il y avait ce fameux Walkman, comme on disait, ouais. On mettait une cassette dedans, ouais. Et on passait ça en boucle.
Ouais.
Et j'avais souvenir comme ça de cette fille qui dansait, qui... Et puis après, j'ai commencé à étudier les paroles. Ça,
sexy aussi.
Sexy aussi.
Et en 85, vous êtes à Sydney.
Ouais, c'est vrai.
Vous dites adieu à la vieille Europe pour être embauché comme pâtissier.
Ouais, boulanger-pâtissier au Regency Hotel. Ouais.
Et vous finissez par faire finalement de la cuisine au sens plus vaste, puisqu'ils ont besoin d'un petit coup de main, c'est ça l'idée.
Alors surtout, ce qui était étonnant, c'est que d'abord, je ne gagnais pas suffisamment ma vie, donc je vivais dans ce qu'on appelle une Salvation Army, comme on dit, l'armée du salut. Quoi. Et le chef me dit, mais si tu veux gagner un peu plus d'argent, il faudrait travailler deux fois, avoir deux emplois. Et je lui dis, mais oui, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je parlais un anglais d'aéroport, enfin, c'était catastrophique. Et le type me dit, bah écoute, t'es français ? Je dis, oui. Il me dit, bah tu sais faire la cuisine alors ? Et je connaissais absolument la cuisine et j'avais emmené un petit livre qui s'appelle Le Gringoire et Saunier, qui est un livre de recettes de cuisine française, et j'ai fait illusion. pendant un an. Mais vraiment, cette relation à la cuisine et cette relation à l'autre, ça m'a beaucoup plu parce que les gens me parlaient. Les gens venaient me voir et ils étaient presque fiers que je sois français. Et moi, je redevenais fier d'être, d'être français et de dire, mais je connais plus de trucs qu'eux. Or que je faisais une sauce hollandaise, j'avais, c'est une horreur, parce que, qu'elle soit bonne ou pas bonne, les types s'en foutaient. Ils disaient, oh putain, quand même, c'est de la cuisine française. Les types me donnaient un crédit absolument incroyable.
Et vous rentrez en France l'année d'après, et là, finalement, vous décidez de passer cette fois-ci votre CAP de cuisine, en candidat libre, et d'aller taper, toquer aux portes des grandes maisons en consultant le guide Michelin.
On dit toquer quand c'est un chef.
Oui, je sais, pour ça.
Complètement, c'est-à-dire que, je vais rentrer en France, je vais passer mon CAP en candidat libre. Je suis parti chez Bernard Loiseau. Et je dis à Bernard Loiseau, est-ce que vous cherchez un commis? Il me dit non, mais si t'as fait tout ce trajet, tu déjeunes là. Je me rappelle de toute la cuisine de Bernard Loiseau. Je suis rentré à Paris. J'ai frappé à deux restaurants. Un s'appelait La Marée, on m'a pas pris. Et l'autre s'appelait Taïwan. Et le chef me dit, je dis au chef, mais vous cherchez un commis? Il me dit oui. T'arrives d'où? J'ai dit chez Bernard Loiseau.
C'est bon ça. Ouais.
Faut être culotté.
Il a pas menti, sans mentir.
Il m'a dit demain à 8h, 6h30 du matin, j'étais là et j'essayais de. Et pendant un an, et c'est. Paix à son âme, à Monsieur Deligne, il a construit avec Philippe Legendre toute ma carrière parce qu'après il m'a trouvé 5 autres grands chefs sans jamais rien vérifier de mon passé.
Joël Robuchon va vous ouvrir les portes et aussi à Paris. Il y avait vous aviez fait votre petite liste.
Exactement, il y avait Joël Robuchon dedans et il m'a permis de travailler avec Joël Robuchon. Et ça a été pour moi la découverte d'un grand technicien, d'un artiste de la cuisine.
Et c'est comme ça que vous avez découvert aussi le Japon, d'une certaine
façon.
Oui,
oui, parce que je me souviens de la question de Monsieur Robuchon. Il dit, vous parlez anglais? Je dis un peu. Il me dit, bah, vous voulez pas aller travailler au Japon? Je partais au Japon. Je vais rester un an. Je suis resté presque 5 ans avec la compagnie Mikuni là-bas.
Et on en revient donc au Japon et à ce roman que vous co-signez avec Odile Bouillet. Merci Odile de venir. Je vous dérange?
Bonjour. Bonjour et bravo.
Alors bravo, mais moi j'aimerais comprendre comment vous avez travaillé tous les deux. Qui a fait quoi, Odile?
Alors on a d'abord eu des longues discussions, et nombreuses aussi, discussions. Thierry avait des envies de personnages, beaucoup. Et voilà, moi j'ai fait ce que je sais faire, c'est-à-dire qu'ensuite je les ai incarnés. Voilà. Pour leur donner vie.
Alors, vous avez publié un premier roman qui s'appelait Le sang des bistonclaques.
Bravo.
Dont les héros, le professeur Salacan et le commissaire Colvert, dirigeaient une première unité scientifique de police judiciaire.
C'est ça.
Avant la mode, j'ai envie de dire, des polices judiciaires, ou avant les camions aussi laboratoires que l'on retrouve dans votre roman. Vous avez poursuivi d'ailleurs comme une espèce de quoi? De rendez-vous, de trilogie?
C'est devenu une trilogie, en fait. J'aurais pu encore en écrire d'autres, mais voilà, j'ai préféré m'arrêter là. Ouais.
Et ensuite, vous avez écrit des livres de recettes avec Thierry Marx, c'est-à-dire que c'est
ça. On a écrit Paris Marx, voilà, et il m'a aussi demandé.
C'est drôle.
Ouais. Et puis voilà, de l'aider aussi sur l'homme positif, voilà.
En 2015. Voilà. Ouais. Et puis vous avez publié, co-signé ensemble. Alors le j'avais cru comprendre dans différentes interviews que vous avez commencé à écrire plusieurs feuillets de votre côté, Thierry, et que vous avez fait appel, alors pour reprendre aussi une allusion faite au roman, à l'architecture, vous avez fait appel à Odile pour l'architecture, oui, justement, du roman.
Complètement, c'est-à-dire, je suis capable d'écrire 3000 signes comme ça pour faire un papier pour un tel ou tel magazine. Je sais retransmettre un peu mes sentiments dans les papiers, mais tout ça, ça fait pas un roman.
Et un chef dit retransmiette parce qu'il retrouve toujours les cuisines. Hein.
Et tout ça, ça fait pas un roman. Il faut effectivement incarner des personnages, il faut construire et il faut un architecte ou une architecte.
Alors l'architecture, on en parlait aussi avec Albert qui est tombé dans le même panneau que nous, c'est-à-dire le roman. Ce roman-là,
sous le charme, hein, c'est plus qu'un panneau. Hein,
c'est ça.
Et elle est au sens ensorcelé par la construction.
Et tu parlais de la structure.
Oui, de la structure. C'est-à-dire, on passe de Paris, du 36 quai des Orfèvres, en cours de déménagement ou qui va déménager. À Tokyo, on revient en France, il y a des petits intermèdes dans une typographie différente d'ailleurs, avec des réflexions. Et au début, on est perdu, puis petit à petit, tout se construit et nous emmène vers où vous voulez nous emmener. Mais malgré nous, c'est ça qui est génial, malgré nous. Et on est captivé, on est pris par la lecture. La construction est formidable de ce roman.
Alors justement, vous dites, vous êtes amusé à faire quoi? Un exercice de style particulier avec ce roman? Vous avez voulu vous...
Non, c'est pas. Enfin, en fait, après, c'est les personnages qui nous guident, quoi. Donc, c'est.
Oui, mais les allers-retours entre 76 et aujourd'hui.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'était important d'incarner justement toute cette histoire personnelle de ce chef. Hein, on va pas tout dévoiler, mais et donc forcément, on est tous issus de notre enfance, de notre passé. Et pour moi, c'est toujours important de raconter ça, quoi. Voilà. Donc après, il faut trouver la bonne manière de le raconter. Donc,
un roman policier, et notamment celui-là, sans aller jusqu'aux racines, on ne peut pas comprendre le pourquoi du comment.
Mais en fait, moi, je suis scénariste, hein, donc forcément, la construction et la forme, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé avec Thierry. Lui, je trouve que sa cuisine a quelque chose d'architectural. Donc c'est, moi, je suis très intéressée par la forme en étant scénariste, forcément.
Parce
donc,
qu'il y a deux voyages. Il y a le voyage dans le temps, ouais, entre 76 et aujourd'hui, le voyage entre Paris et Tokyo. Il y a aussi comme des. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des petites notes. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est écrit comme des poèmes japonais? Il y a dans un style très.
Les haïkus,
un style très court, oui, très vertical, oui, dans la typo, oui, avec une typo différente.
Oui.
Je ne sais pas comment expliquer aux auditeurs.
Il faut qu'ils le lisent, mais oui, c'est.
C'est le Menucci, c'est-à-dire que c'est la frappe juste, la frappe pénétrante et ultime. Et dans ce qu'on retrouve, et on a beaucoup parlé avec Odile, c'est de se dire cette sensation du geste ultime, du geste parfait, du geste. La cuisine, c'est plaisir, bien-être et santé. C'est ce que disait Arquestrat. Nous, ça a été plaisir, bien-être et mort. Mais dans ce plaisir, un plaisir ultime d'une découverte, c'est-à-dire la fin du personnage. Et c'est ça qui était important aussi de retrouver dans cette atmosphère du livre, c'est de dire, à chaque fois qu'on va prononcer quelque chose, on sera sur la coupe juste.
Et quand le plaisir rejoint la mort, point de suspension, c'est ça.
Et puis on retrouve aussi, moi ce qui m'a intéressé, c'est que connaissant un peu votre biographie, on vous a déjà reçu, donc je m'étais déjà un peu imprégné de votre itinéraire, et j'ai cherché comme ça dans les personnages que vous aviez pu glisser de vous, et je vous reconnais un peu dans le personnage d'Achille Siméo, il y a pas mal de traits comme ça, et en même temps pas uniquement,
un peu
éclaté.
Plus que dans le chef d'ailleurs, parce qu'il y a un chef au milieu de l'histoire.
Il y a un chef, et c'est pas forcément dans le chef qu'il faut vous chercher, j'ai la sensation.
Mais il y a dans le chef et dans Achille Siméo, parce que Achille Siméo finalement... Ce qui était intéressant de travailler avec Odile, c'est de on pouvait aussi raconter les choses. Mm-hmm. Effectivement, on livre beaucoup de soi-même. Ce Achille Siméo, finalement, je l'ai rencontré. Il y a de la fiction, mais dans la fiction, il y a beaucoup de vrai. Mm-hmm. Donc, à ce Achille Siméo, moi, j'ai rencontré un jour un capitaine de police à la retraite qui est passionné pour son nombre d'art, et on se croise chez Drouot.
D'accord.
Et on parle, et il trouvait comme exutoire à son métier, que le métier de policier est un métier difficile, où vous traitez des choses les plus noires de la société, et pour sortir de ça, lui allait chercher dans l'Antiquité, dans la connaissance du métier d'antiquaire, quelque chose pour sortir. Et j'avais cette image de ce... Ce flic, c'est pas un homme grossier, flic, de ce flic qui sortait de ça, puis finalement qui se reconstruisait en tant qu'homme au travers d'autres choses.
Vous auriez pu dire poulet en tant que chef. Hein,
et c'est réussi parce que ce personnage est très attachant, cet Achille, parce que en effet, il a cette connaissance-là, et puis il est curieux, il a envie d'apprendre, et il se plonge finalement dans l'enquête. Finalement, autant pour découvrir l'univers des Yakuza que pour découvrir ce qui s'est passé. Et je trouve que ça le rend très attachant, cette dimension un peu, c'est pas juste un mec perdu, comme souvent on a en personnage principal des policiers, un mec comme ça, qui boit tout le temps, qui est désespéré.
Il a des problèmes personnels.
Bien sûr, il a ce côté sombre, mais il a un supplément d'âme qui fait qu'on a envie d'être avec lui.
Il y a une sorte de solitude.
Ce qui est intéressant aussi, c'était ces gens qu'on met au placard de temps en temps, qu'on voit plus dans les services, on se dit, oh, attends, c'est un vieux con, laisse-le là. Et puis finalement, c'est lui qui, par l'expérience et la connaissance du métier, si c'est pas net tout ça.
Lui, on le met dans un placard parce que, au contraire, il va là où ça fait mal.
Exactement.
Et c'est l'autorité qui veut le faire taire.
Et donc, on se dit, non, il est pas assez moderne, pas assez. Mais en même temps, l'expérience paye là-dedans. C'est lui qui arrive à dénicher un petit peu les...
Odile, architecturer un livre comme ça, le construire, ça se fait avec des plans, comme on faisait nos dissertes à l'école. Ça se fait avec des fiches.
Ah ouais, des post-it partout, voilà.
Ça se croise pour qu'on perde pas trop longtemps tel personnage et qu'on
c'est
le retrouve.
C'est un casse-tête, en effet. C'est un vrai casse-tête, mais c'est génial. Mais c'est vrai que oui, j'ai des post-it partout. Quand je commence, mon bureau est très très bien rangé avec toute ma pile de documentation. Et puis au bout de la centième page déjà, il y en a
ça
partout.
Ça part en vrille. Ouais. Est-ce que vous avez comme référence dans parmi les auteurs de Polar, on parlait de San Antonio tout à l'heure pour Thierry Marx. Il y en a peut-être d'autres depuis, mais vous, quels sont les auteurs que...
Alors, j'ai pas vraiment de modèle, j'ai plus des compagnons. J'aime bien Craig Johnson, puis j'aime bien surtout William Taplay, avec son héros justement aussi désabusé, triste et qui voit des choses que personne d'autre ne voit. Voilà. Bon, alors évidemment, il y a aussi les grands classiques, hein, Simenon.
Mankell.
Dans ce roman, on a évoqué tout à l'heure la présence de cette jeune star blonde que vous évoquez. Il y a beaucoup de liens ou de renvois, notamment le déménagement aussi du 36 quai des Orfèvres vers le nord de Paris, comme le palais de justice. Il y a beaucoup de renvois avec l'actualité. La circulation parisienne, par exemple.
Et t'as vu sur les routes.
Et taclé,
le pont Mirabeau et le parc André Citroën, c'est chez moi.
Ouais, c'est ça. Non, mais il fallait quoi? Temporaliser ça aussi, lui donner un goût de proximité que tout le monde puisse s'y reconnaître.
Non, mais c'est important, le réalisme, je crois, dans le polar. C'est quand même aussi ce qui compte. Fait qu'on s'attache justement au personnage, c'est qu'il est complètement ancré dans la réalité, dans la société, quoi. Ouais.
Et puis on apprend plein de choses sur les Yakuza. Moi, j'ai trouvé ça aussi génial. J'ai découvert un univers. On peut se dire comme ça, ça va être rébarbatif. Et non, même juste les notes de bas de page qui expliquent, les trois mantras des Yakuza. C'est la sensation de pénétrer dans un autre univers qui donne envie d'aller plus loin.
C'est vrai. Mais en plus, c'est très, très, très codifié. Mm-hmm. Ça s'ouvre. D'abord, Odile a fait le voyage au Japon, donc pour découvrir un peu.
Pour la première fois.
Ah bah oui, comme Siméo, c'était ça que je voulais. Donc d'ailleurs, j'y suis allée sans Thierry, je voulais vraiment y aller...
La touriste.
Ouais, faire comme Siméo, je voulais vraiment ensuite pour pouvoir retranscrire ça...
Et ça vous a apporté quoi?
Alors moi, j'ai pas 23 ans de Japon, hein, j'ai que 15 jours de Tokyo.
C'est pour ça,
ouais. Non, mais ça m'a apporté justement, j'ai pris énormément de photos, je me suis plongée, j'ai une amie qui est venue avec moi, et voilà, on a marché dans Tokyo, enfin on a vraiment...
Et vous êtes restée réveillée jusqu'à 26h, 27h
exactement,
de la journée.
Exactement.
C'est vrai qu'il calcule comme ça?
Oui, exactement.
C'est pas 2h du matin, mais c'est 26h?
C'est 26h, sur les restos, c'est ouvert jusqu'à 26h, donc au début je me suis dit...
Ils sont bizarres quand même.
Mais c'est facile, voilà. Non, mais c'est génial. Thierry m'avait énormément parlé du Japon. Je m'étais plongée, j'avais des images d'Épinal. Hein. Mais là, le
ça
fait d'être
envie,
vraiment, ça donne
envie d'y aller.
Mais le Japon, c'est un pays qui va se mériter au fur et à mesure, et on va vous ouvrir. Il me semble que c'est extrêmement vrai. On va vous ouvrir au fur et à mesure de votre capacité à comprendre l'univers qu'on vous fait découvrir. Et c'est vrai que, plus de 20 ans de Japon maintenant, eh bien, je découvre des choses qu'on ne m'aurait sûrement pas présentées 20 ans en arrière.
C'est comme une femme.
Il m'avait donné quelques clés, Thierry. Hein. Il m'avait dit, il faut que tu ailles à Tsukiji, par exemple.
Ah, c'est pas des clés, c'est des adresses, alors.
C'était quelques, voilà. Et bon, c'est vrai que Tsukiji, ce marché est absolument... extraordinaire, quoi.
Impressionnant.
Impressionnant.
Justement, puisqu'on on parle des femmes, elles sont présentes souvent, alors soit dans des histoires d'amour, soit dans la prostitution même de mineurs et de jeunes étudiantes ou écolières, enfin ou lycéennes, je crois le terme, oui. JICA, c'est ça,
oui, c'est ça.
Employé dans votre roman. Votre apport, votre part de féminité dans ce roman.
J'avais envie de, parce que c'est vrai que ça, on n'en parle pas, hein, quand on parle du Japon, il y a quand même un côté très très noir, très très sombre aussi dans ce pays, et notamment le rapport à la sexualité, le rapport, voilà. Donc en tant que femme, je voulais aussi, alors c'est pas une histoire de dénoncer, mais je trouvais que c'était assez intéressant d'en parler, ouais.
Sur la condition féminine,
bien
en
sûr.
Tout cas là-bas.
Ouais.
Merci Odile d'être venue nous apporter ce témoignage,
merci
cette histoire,
merci,
ce
Odile.
Partage, puisque la cuisine c'est aussi le partage, comme la lecture, avec Thierry Marx, On ne meurt pas la bouche pleine, cette édition 109, Thierry Passion, lui ne parle pas à la bouche pleine, ce
non.
qui est bien, pour nous dire qu'on était plus intelligents avant.
Oui, alors que c'est faux, puisque notre cerveau ne cesse de grossir. Même Nabila et Thomas sont plus intelligents que nos ancêtres, en tout cas si on prend comme base Lucie l'Australopithèque. Dans 3000 ans, le cerveau constituera les trois quarts de notre poids total, ce qui est déjà le cas chez Laurent Deutsch aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, la science nous répond.
Ça sera tout à l'heure dans la deuxième partie. C'est la bande originale, la deuxième partie de cette rediffusion en période de vacances scolaires. C'est Thierry Marx qui est notre invité pour son polar de grand chef. On ne meurt pas la bouche pleine. Qui signe ce premier roman. Vous n'avez jamais commis de roman avant le premier qui s'appelle On ne meurt pas la bouche pleine. Alors justement, on va pas dévoiler ce qui se passe évidemment dans ce,
policier
ce roman.
Policier culinaire historique. Principe,
mais la cuisine moléculaire en tout cas est présente.
Machiavéliquement.
Et on sait que vous la maîtrisez, même si j'imagine que tous les jours vous devez découvrir quelque chose de différent de la veille.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que surtout grâce à cette gastronomie moléculaire, il y a 10 ans, on a créé un laboratoire de recherche à Orsay avec Raphaël Aumont, et qu'aujourd'hui, on est capable de projeter quelle gastronomie pour 2050, quel environnement pour 2050. Et évidemment, on a étudié toute la transformation des produits, tout l'aspect physico-chimique des produits, les sciences fondamentales, je dirais, qui nous permettent de faire une cuisine autrement.
Alors, elle va évoluer comment la cuisine, alors, à votre avis?
On a vraiment intérêt à devenir dans les 10 années à venir tous flexitariens, quoi. 80% végétal, 20% protéines animales. Ça nous permettrait de régénérer par moment cette planète. Il y a un merveilleux livre qui est sorti qui s'appelle Les économies symbiotiques. Il faut lire ça, c'est absolument très intéressant. Mais de montrer que cette planète, elle est épuisée aujourd'hui en eau, les terres sont fatiguées et il faut peu de choses, vous voyez, on devient tous flexitariens et finalement on est capable de régénérer la planète.
Et je rappelle simplement que l'élevage industriel de viande et de bovins à travers le monde pollue plus que tous les transports réunis, que ce soit avion, bateau, voiture, camion, bus.
C'est prouvé. Et quand vous mangez 150 grammes de viande, vous avez 25 litres d'eau dans votre assiette. 1 kilo de viande, 10 000 litres d'eau. Wow.
Moi, je mange pas de viande, ça veut dire que je peux m'acheter un 4x4, quoi.
Exactement. Non, ça veut dire que tu peux rouler électrique aussi. Ah, oui,
dans le poisson, c'est pareil, n'est-ce pas?
Alors, le poisson, c'est la raréfaction du poisson, on fait faire attention, et puis surtout sur les espèces préservées. Mais du poisson une fois par semaine, de la viande une fois par semaine, on serait déjà très riche.
Mais qu'est-ce qu'on mange comme poisson? On entend beaucoup que le poisson, quoi qu'il advienne, soit infesté de mercure.
C'est pas tout à fait vrai. D'abord, on n'a pas de.
Quel genre de poisson?
Je pense qu'il
consomme,
chef. Il faut laisser les choses se régénérer. Donc, vous avez le maquereau, par exemple, les petites lisettes du Boulonnais. Quand c'est la saison, faut en consommer. Quand c'est la saison de la sole, faut en consommer. Il faut faire une pêche responsable. Quand vous achetez du blé, il faut s'assurer que la personne qui produit ce blé entretiennent bien le sol qui produit ce blé, mais qu'elle soit payée à sa juste valeur.
Pour ça, il faudrait quoi? Un étiquetage?
Un étiquetage précis d'un organisme indépendant qui, de 0 à 100, permette une graduation.
Mmh. On va en parler tout à l'heure avec vous, évidemment, Thierry Marx, et de ce roman On ne meurt pas la bouche pleine, aux éditions 109, co-signé avec Odile Bouillet. Mais à 12h10, il est uniquement sur France Inter. Oh. Tanguy Pastureau maltraite l'info. Oh,
oui, Pastureau, salut.
Ça va, Tanguy? Je suis ravi, mais à un point,
je cherche ma feuille.
Tanguy, vous le disiez tout à l'heure, je peux l'accueillir ou pas, non?
Oui, tu fais ça tellement
bien. Gonflé, Daniel.
Notre cerveau a considérablement grossi, sauf celui de Daniel Morin.
Oui, Nagui, pas le nôtre en tant qu'individu, parce qu'au contraire, à l'âge qu'on a tous, chaque jour, le truc se tasse et on perd des neurones. Ça. Personnellement, je suis de plus en plus con. Hier, j'ai regardé Énergie 12, j'ai tout compris. Mais le cerveau de l'Homo sapiens, la taille du cerveau a triplé entre l'Australie et l'Homo sapiens. Mais cette taille-là, tout le monde s'en tape. C'est pourquoi les spams qu'on reçoit concernent des élongations de pénis et pas de cerveau. Pour une raison simple qui est qu'il est impossible de pénétrer quelqu'un avec son cerveau. Ou alors c'est qu'on a une petite tête et qu'on n'est pas claustrophobe. Bref, Hubert Reeves, qui en a un énorme, aura toujours moins de succès avec les filles que Baptiste Giabiconi, même avec une demi-molle. C'est toute l'injustice de notre époque. Les chercheurs français sous-payés se taillent à l'étranger pour subsister, alors que la moindre star de télé-réalité qui a 4 pectos au lieu de 2 parce que son chirurgien était bigleux, fait 10 000 boules par mois en postant des photos de boissons détox sur Instagram. 2018 est une aberration. Bref, notre cerveau grossit, à l'instar du nombre de fans de Nicole Belloubet, 2 au lieu d'un, puisque sa sœur a rencontré quelqu'un, et des scientifiques se sont demandé pourquoi. Alors la réponse d'après eux est que Néandertal, ancêtre de l'Homo sapiens, était basique, comme chez nous, Gilles Verdez. Il criait, faisait l'amour,
bouffées de petites baies, soit un mix entre les vies de Joe Star, Patrick Bruel et Aymeric Caron. Mais un jour, il a eu envie de manger de la viande. Il faisait beau, il s'est dit « je ferais bien un barbecue avec une playlist à la cool pour chiller avec mes frérots ». Mais Spotify n'existait pas, ni les gens s'exprimant comme Kev Adams, ni la viande. Donc il s'est mis à chasser en groupe. Parce qu'à l'époque, le gibier de basse, c'était le mammouth laineux. Et les mecs en face étaient en slip de peau avec des bâtons. Le contraire d'aujourd'hui où des gonzes sans âme ont des carabines semi-automatiques pour trucider Pampan le lapin dans le dos au moment où il fait ses crottes. L'homo sapiens donc a dû communiquer, dire des trucs comme « attention Jean-Mi, le mammouth est derrière toi », ce à quoi l'autre répondait « arrête Gilbert, t'es con », puis un grand bruit de corps écrasé se faisait entendre, c'était l'incident voyageur de la RATP des temps anciens. Or, plus il y a d'interactions sociales, plus le cerveau est sollicité, plus il grossit. Donc François Bayrou, qui est seul dans son parti, le modem, doit avoir dans le crâne un cerveau de la taille du cochonnet dans le jeu de boules de Patrick Bosseau.
Bon, c'est donc le développement des échanges qui nous a fait grossir le cerveau.
Oui, ainsi quand l'homme s'est organisé face à des ennemis, il a dû construire une stratégie, dialoguer, dire celui-là on va les triper comme ça, dans ce village on va violer tout le monde y compris les chèvres, voir leur chanter du M-Pokora, mais enfin c'est peut-être un peu cruel. Ce qui explique pourquoi les pacifistes sont totalement cons. En Suisse, pays neutre, le dernier à avoir fait preuve de violence c'est Guillaume Tell, et encore c'était contre une pomme. Il lui manquait plus que la patte brisée, il avait la vie sordide de Julie Andrieux. Et ben les Zigs sont juste capables de compter des billets de banque et de prononcer quelques mots usuels comme « bonjour monsieur mon fils » ou « monsieur Tsonga, un autographe ». Le dernier Suisse à avoir fait parler de lui, c'est Tariq Ramadan, et pas pour son cerveau. Ou alors c'est que ses organes sont inversés et qu'il a le cerveau dans le calcif. Dans ce cas, pour le saluer, eh bien, il faut lui serrer le pied. Enfin, selon la science, l'homo sapiens confronté à des conditions environnementales particulières a vu son cerveau grossir parce qu'il devait chercher des solutions. En cas de pluie, se mettre à l'abri. C'est pour ça qu'il y a tant de génies en Bretagne, alors qu'à Nice, ils ont Christian Estrosi. Il devait conserver sa nourriture, stocker l'eau, alors que nous, qui n'avons qu'à ouvrir le frigo pour trouver le Saint-Moray, on ne sollicite plus notre cerveau, sauf si on a un ado, auquel cas on cherche pendant 10 minutes le Saint-Moray, alors qu'il l'a bouffé, bien sûr. L'ado mange tout, c'est Gérard Depardieu, mais en jeune. De même, le fait de devoir maîtriser le feu a développé notre cerveau, parce qu'avant, les gens mangeaient tout cru. Et je peux vous dire que les sushis avec du riz non cuit, il fallait y aller pour les rouler. En fait, plus l'environnement est rude, plus il demande de facultés d'adaptation et plus le cerveau grossit. Moi, la fois où j'ai fait du camping, j'ai compris que le bloc WC collectif, il fallait y aller à 4h du matin et pas à 21h le soir où le camping avait fait soirée Tex-Mex. Adaptation. Je peux vous dire qu'à Koh-Lanta, où les types dorment dans le sable avec des puces de mer dans les fesses et font du feu avec un bâton, ils ont le cerveau qui prend 4 kilos en 2 mois. Vous faites l'émission, Jean-Michel Blanquer derrière vous attend à l'aéroport en vous disant « bébé, je viens de dire qu'on t'a fait une équivalence Bac plus 10, j'ai vu avec le CNRS, tu commences demain à bosser sur l'atome ». C'est le confort qui a fait que notre cerveau a arrêté de grossir, Nagui. La vie moderne, c'est le Weight Watchers de l'intellect.
Oh, c'est beau. La bande originale avec Thierry Marx, ça continue juste après Be Honest, le titre de Kiddy Smile. Day is trying hard to get your attention, but it ain't working. Yeah, I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed. You just keep on digging, yeah. Satisfaction guaranteed. Whatever you expect, give it a little respect. If you want some in return, satisfaction guaranteed. You just keep on digging it. Satisfaction guaranteed. Be honest with the bubble. Hey, hey, hey. C'était Kid Ismaël sur Inter. On est de retour avec la bande originale de Thierry Marx.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Justement, à propos de tuer les anguilles et de revenir à ce policier, tuer pour manger, c'est le principe de la cuisine, tuer les anguilles, tuer
une carotte,
un bébé veau de 7 mois pour le cuire.
Quand tu dis ça.
Mais je dis ça parce que évidemment ça me choque et ça choque de plus en plus de personnes. La souffrance animale en cuisine, c'est un sujet.
C'est un vrai sujet, il faut y aller précaution, c'est-à-dire que d'abord la souffrance animale, il faut la limiter au maximum, et même quand on a, vous voyez, on prenait le cas du Japon, quand on a tué un poisson, on va pratiquer le Ikejime. Ikejime, c'est une mort sans douleur. Mm-hmm. Donc c'est ce qu'il faut, si on doit consommer une protéine animale, eh bien il faut s'assurer qu'elle ait été tuée dans de bonnes conditions pour beaucoup de raisons, y compris pour la raison gustative. Il n'y a pas de raison de tuer quelque chose de la plus mauvaise façon. Ce sera au contraire mal cuisiné.
Comment faire pour une vache, par exemple?
Je suis d'accord avec vous, c'est compliqué.
Quelles sont les méthodes? Voilà, c'est ça, parce que j'entends le discours, mais comment
je pense que moi qui ne mange pas de viande, donc c'est compliqué pour moi d'en parler, mm-hmm. parce que justement j'ai visité un certain nombre d'abattoirs et je trouvais ça scandaleux. Je trouve pas scandaleux de manger de la viande. Mm-hmm. Je trouve scandaleux d'abattre la viande de cette façon-là. Maintenant, encore une fois, il y a des méthodes qui sont respectables et d'autres qui le sont un peu moins. Alors, il y a l'électrocution, il y a effectivement un certain nombre de choses comme ça, mais il faut être extrêmement vigilant en tant que citoyen pour s'assurer que la viande que vous consommez, il faut en consommer moins, donc limiter les abattages, et puis surtout limiter les élevages, pour avoir des viandes de meilleure qualité, avec des abattages, avec la façon d'abattre beaucoup plus saine.
Et le consommateur n'est pas au courant, et pas, non, mais c'est pas facile de savoir
comment une viande a été tuée, on parle de l'étiquetage.
À ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la responsabilité sociale et environnementale de ce que nous consommons. Sociale pour plein de raisons, et environnementale pour beaucoup de raisons, y compris celle de la maltraitance animale, mais ne tombons
pas. Mais
quand
vous dites que vous mangez pas de la viande, c'est nouveau ou ça a toujours
été
le cas ?
Non. J'ai arrêté de manger de la viande il y a une vingtaine d'années. J'impose pas à mes clients de ne pas manger de viande.
Oui, vous la cuisinez encore, oui, c'est ça.
Mais la carte de mon restaurant, c'est 80% végétal, 20% protéines animales.
Et pourquoi avoir arrêté de manger de la viande ? Par curiosité ?
Très honnêtement, c'est venu d'abord pour des problèmes de digestion il y a 20 ans. Par goût aussi, parce que je trouvais pas ça forcément très un goût qui me convenait, qui me donnait de l'émotion. Et puis voilà, ça a disparu de mon alimentation.
Et vous faites quoi du lait de vache alors? Parce que là aussi, moi, j'ai une théorie. Ouais.
Moi, je n'en consomme plus parce que j'ai plus l'âge de consommer du lait de vache. J'en ai pas besoin. Et le calcium, je le trouve ailleurs. Mais je peux concevoir comment. Pour produire du lait, il faut énormément d'eau. Donc il faut aussi limiter cette. Et puis du vrai lait. Alors pas du lait fracturé comme on a en brique. Aujourd'hui, c'est pas ça le vrai lait.
On ne meurt pas la bouche pleine, c'est un roman passionnant, écrit d'une manière extrêmement agréable. C'est-à-dire quand on est vraiment plongé dans ce roman, on n'a pas envie d'en sortir, on a vite envie au contraire de savoir ce qui s'y passe. Et même quand on croit avoir trouvé et avoir été plus malin, il y a toujours un contre-pied.
C'est suffisamment bien écrit pour se dire que des indices avaient été semés et que si on avait été davantage attentif à certains adjectifs, notamment, on aurait pu sans doute trouver.
Signé Odile Bouillet, Thierry Marx aux éditions 109. On passe du 109 à un vieux truc séché, rabougri. C'est Daniel Morin.
Quelle honte. Ah nom de Dieu, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon de temps en temps, comme aujourd'hui, de recevoir un beau gosse. Merci d'apporter un peu d'esthétique, un peu de glamour dans ce studio. Oui, souvent, on a de l'invité au physique lambda, de l'invité au physique banal, tout au plus souriant, quelquefois affable, mais beau. Non, c'est très rare. Alors, bien sûr, il y a Nagui. Oui, mais Nagui, il est pétillant, il est pas beau. Non. Autour de cette table, je me sens très seul. Je me sens si seul. Alors bien sûr, il y a le public qui souvent est d'une laideur absolue et du coup ça rend un peu moins à l'aise mes collègues, mais il n'y a pas de quoi pavoiser non plus. Et croyez pas que pour moi c'est facile de vivre une vie de beauté, non. Souvent quand je rentre chez moi, après avoir péniblement écarté la foule rassemblée au bas de mon immeuble qui vient me prendre en photo, essayer de me toucher, eh bien je me vaute sur mon canapé en imaginant que je suis d'un physique quelconque. Ah, ça doit être reposant pour notre rédacteur en chef, Jean-Baptiste Bussière, d'avoir un physique comme le sien. Et il est pas moche, attention, il est pas moche, il est juste passe-partout. Ni beau, ni hideux, il traverse la vie comme un douanier en civil, sans que personne ne le remarque quand il passe ou ne l'écoute quand il parle. Parfois, vous savez, Nagui, Jean-Baptiste Bussière, eh bien, j'envie sa transparence.
T'es salaud.
Ouais. Très souvent, ce vague à l'âme se transforme en sommeil. Et moi, quand j'ai sommeil, je ne résiste pas. Je m'endors. Et quand je dors, je rêve. Dans mon rêve, je suis heureux. Je suis en compagnie de personnes au physique détonnant de beauté. Nous nous amusons comme des fous. Cache-cache, balle aux prisonniers, on chahute, on se taquine, on fait l'amour. Bref, des relations de camaraderie entre gens attirants. Puis, d'un seul coup, je suis tiré de mon sommeil. Tiré de mon rêve par la radio, Europe 1. Oui, c'est moi leur dernier auditeur. C'est moi le dernier. Donc voilà, je les écoute.
Okay, okay.
Radio qui raconte les mésaventures d'un autre beau gosse, Cyril Lignac. Cyril Lignac, qui, quand il ne fait pas l'amour à des comédiennes, est jury dans l'émission Le Meilleur Pâtissier. Et cette semaine, Cyril a une réaction étonnante quand il a jugé le gâteau d'un des candidats. Quand Cyril s'est penché sur le Trianon recouvert d'un glaçage miroir et d'une plume en chocolat de Clément, n'en revenant pas de la beauté du gâteau, il s'est mis à pleurer. Oui, il a pleuré en disant au candidat « C'est du beau travail. » Et là, je suis ému parce que dans la vie, c'est dur. Il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras. C'est jamais facile. Waouh. Il ne ferait pas une petite déprime, mais c'est vrai. Il faut être méfiant. Alors, pour en avoir le cœur net, j'ai changé de radio, hein, histoire d'avoir de vraies infos. Et ma crainte s'est confirmée. France Inter, flash spécial, l'émotion ne retombe pas pour Cyril Lignac après avoir craqué dans l'émission Le Meilleur Pâtissier. Le chef à l'accent insupportable va de rechute en rechute. Hier soir à table avec l'équipe de l'émission, quand Mercotte lui a passé son joint, il a fondu en larmes en disant « C'est du travail, bien fait, putain, ce qu'il est bon, parfait ce pétard, je suis super ému. Là, pas parce que quand t'es bourré, c'est pas facile de rouler un spliff comme ça. Faut pas baisser les bras, jamais baisser les bras. Allez, maintenant, je vais goûter. » Quelques heures plus tard, quand il est remonté dans sa chambre, on l'entendait, ou l'attendait plutôt, nu sur son lit, un mannequin offert par la direction de M6.
Royal.
Il a craqué. Il a craqué en pleurs, en déclarant « C'est du beau travail. Mon Dieu, l'émotion. C'est beau, bordel. Il est parfait, ce corps. Il est parfait. Il n'y a rien qui dépasse. Sauf ce qui doit dépasser. Et ça, c'est jamais facile. C'est hyper dur. Allez, maintenant, je vais goûter. » Cyril Lignac est depuis ce matin en désintox dans un établissement où la drogue est interdite et le personnel est moche. Allez, Cyril, on se reprend. On arrête de chialer devant les gâteaux. C'est pas sérieux. Bon
merci,
week-end.
Daniel Morin. Bravo. France Inter, la bande originale avec Maggie. Merci Daniel Morin. Thierry Marx, sans dévoiler ce qui se passe dans le livre, encore une fois, c'est un roman policier.
Palpitant,
ouais. Qui se passe entre Paris et le Japon, qui se passe entre 76 et aujourd'hui, qui se passe aussi avec des histoires d'amour et des histoires familiales aussi, compliquées, mais bon, comme souvent peuvent être les histoires familiales avec leurs secrets, les secrets de famille, qui restent peut-être dépendants de certaines générations. Exactement. Même une histoire d'héritage improbable refusée par ce commissaire. La cuisine peut empoisonner. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est l'une des situations qu'il y a dans le livre, encore une fois, sans déflorer. Mais est-ce que la cuisine peut soigner? Cette cuisine moléculaire dont vous parlez, ces racines vers lesquelles on va chercher des extraits de molécules, est-ce qu'elle pourrait aussi, non pas donner un cancer, mais soigner des cancers? Alors,
je pense que la cuisine a cet avantage de prévoir, d'éviter la maladie. Ça, je le crois très, très sérieusement. Maintenant, il y a aussi...
Vous savez que ça choque des médecins d'entendre ce genre de discours?
Oui, ils sont pas vraiment choqués. Ils sont choqués quand on leur dit que ça peut soigner. Je peux le comprendre. Moi, je reste sur l'axe qui était écrit par Archestrate. L'Antiquité grecque disait « La cuisine, c'est plaisir, bien-être et santé. » Mais si vous ne commencez pas à cuisiner par plaisir, si vous ne connaissez pas l'ingrédient que vous ingérez, ça va être compliqué. Vous n'avez pas... Ce qui amène à la maladie, on le sait. C'est la surdose de certains produits, c'est la surconsommation d'autres choses, de sucre, etc.
Donc de variété aussi.
Et bien sûr. Donc, je crois que, d'abord, il faut instruire. Au 19e siècle, on disait l'homme se nourrit, seul l'homme d'esprit sait manger. Et la cuisine protège votre santé, ça j'en suis convaincu. Maintenant, il y a des études qui sont faites, et j'étais dans une université très récemment, par exemple, sur la graine de sésame, où on lui prête maintenant, avec un ensemble de vérifications, le soin sur des traumatismes liés au cerveau. Il y a des preuves aujourd'hui.
C'est super bon.
Voilà. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui peuvent prévenir des maladies ou réparer de certaines maladies. Maintenant,
et qu'on peut retrouver sous forme d'huile, sous forme de graines, sous forme de pain. Enfin...
Mais je crois que pourquoi je défends la cuisine, parce que la cuisine, c'est de protéger votre santé. Quand vous faites, les gens me disent, mais j'ai pas le temps de cuisiner. Faites un œuf. Un œuf bio, c'est 45 centimes d'euros en moyenne. Vous en faites. Faites une petite mayonnaise végétale avec. Allez, ça vous a pris 25 minutes. Vous mangez quelque chose qui est bon. Vous vous restaurez. Vous.
C'est au sens de reconstruire.
C'est pas pour vous aimer, c'est pour vous reconstruire.
Restaurer, c'est reconstruire.
C'est là où on s'est perdu, on a consommé, surconsommé à un tel point qu'on s'est consumé.
Ouais.
Et aujourd'hui, nos pathologies sont liées à cette surconsommation de certains produits.
Des excuses à présenter, Daniel Noir.
Désolé pour tous les fans clients de Thierry Marx qui, si j'ai bien suivi, depuis qu'il a écrit son bouquin, au mieux maintenant auront une gastro ou au pire décéderont dans des souffrances atroces. Rest in peace les gars, mais bon appétit quand même. Désolé pour tous les yakuzés, yakuzo, yakuzi et plus généralement, oui, très très désolé pour les langues italiennes et japonaises qui ont été complètement mélangées et salopées par Nagui. C'est vrai que ça piquait un peu ce matin.
À propos de fiction, plongez-vous avec délice dans On ne meurt pas la bouche pleine, Odile Bouillet, Thierry Marx.
Ah oui, ça, c'est une belle idée de cadeau de Noël.
Aux éditions 109. Non, mais si vous aimez les San Antonio, vous allez vous régaler aussi.
Ouais,
il y a tout ça là-dedans. Merci Thierry d'avoir trouvé le temps de venir à ce micro. La bande originale, la rediffusion de celle de Thierry Marx, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Leïla Slimani qui sera notre invitée. Mais tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand.